VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Élection générale aujourd'hui en Angola, le candidat du parti au pouvoir, João Lourenço, est donné gagnant par la grande majorité des observateurs politiques. Il a promis en cas de victoire un miracle économique, selon Gina Moulissa.
Candidat du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, l'ex-ministre de la Défense est donné grand favori. Il devrait succéder à José Eduardo dos Santos, qui a décidé de prendre sa retraite après 38 ans de règne. L'Angola, depuis 3 ans, subit de plein fouet la chute de cours de l'or noir, ce qui a contribué à l'endettement, une inflation galopante et la chute de la monnaie locale. Monsieur Lourenço promet le miracle et dit compter sur les capitaux étrangers. Les deux principaux partis d'opposition, l'UNITA et la CASACE, ont dénoncé les conditions inégales de la campagne électorale. Ses opposants accusent le MPLA au pouvoir d'avoir utilisé les moyens de l'État et de s'être accaparé les médias.
En RDC, réaction de l'opposition contre la demande de la SADC à la CENI de publier un calendrier révisé au motif qu'il est impossible d'organiser les élections en décembre 2017. Pour l'opposition congolaise, la SADC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, a choisi de protéger le président Joseph Kabila, Edi Sango.
On ne comprend pas comment aujourd'hui la SADC peut choisir son camp et choisir un dictateur.
La réaction est de Martin Fayulu, un des sages du Rassemblement. La principale plateforme de l'opposition congolaise a fait une prise de position contre le communiqué final du 37e sommet de la SADC clôturé dimanche en Afrique du Sud. Dans ce communiqué, la SADC note qu'il ne serait peut-être pas possible de tenir des élections en décembre 2017 en raison d'un nombre de défis. La communauté de développement demande à la CENI de publier un calendrier électoral révisé. L'opposition oppose à la SADC l'accord du 31 décembre qui a décidé que M. Joseph Kabila devrait partir au plus tard le 31 décembre de cette année, dit Fayulu. L'opposition rappelle que les Nations Unies demandent dans une résolution le respect du dit accord. La SADC a également, lors de ses 37e sommet, approuvé la nomination d'un envoyé spécial en RDC avec pour mission d'y suivre les processus électoraux. Mais l'opposition congolaise prévient qu'elle n'acceptera pas un troisième dialogue pour repousser les élections.
Au Cameroun, 4 membres d'un comité de vigilance ont été tués mardi soir lors d'un attentat suicide dans la localité d'Amchide, frontalière du Nigeria, dans l'extrême nord du pays. L'information et le bilan de l'attaque ont été confirmés à l'AFP par une source sécuritaire de la région, jointe depuis Yaoundé. Composé de civils qui livrent des renseignements aux forces gouvernementales pour lutter contre le groupe djihadiste nigérian Boko Haram, les comités de vigilance au Cameroun sont particulièrement ciblés par les djihadistes. Au Nigeria, l'UNICEF, l'agence onusienne de protection des enfants, tire la sonnette d'alarme sur le recours croissant par Boko Haram à des enfants kamikazes, des filles pour la plupart, dans le nord-est du pays. Leur nombre a quadruplé par rapport à l'année dernière et Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF à Genève, plaide pour une réinsertion de ces enfants utilisés par les djihadistes.
Le retour à la vie civile de jeunes qui ont été dans des groupes armés est toujours compliqué psychologiquement, émotionnellement. Et il est clair que ce genre de pratique épouvantable qui est en pleine augmentation complique d'autant plus ce retour à la vie civile de par la stigmatisation, de par le rejet additionnel que ces enfants qui souhaitent revenir à la vie civile inspirent aux communautés. Il y a beaucoup de travail à faire, travailler avec les communautés et faire en sorte que les personnes et les agents qui ont de l'influence dans ces communautés du nord-est du Nigeria arrivent à persuader les communautés, les familles, les villages à donner de la place et à accueillir ces enfants. Il faut aussi évidemment que ces enfants, une fois que un climat de réconciliation a pu être renoué, bénéficie aussi de soutien économique. Jusqu'à présent, nous avons pu aider 3000 enfants et 1200 familles dans cette région du nord-est du Nigeria, justement avec ce travail communautaire de promotion de la réconciliation, de l'acceptation, de la tolérance par rapport au retour de ces enfants.
Christophe Boulirac, porte-parole de l'UNICEF à Genève.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Burkina Faso, c'est aujourd'hui que le corps de Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, Burkinabé arrive à Ouagadougou, où un deuil national de 3 jours a été décrété par le président Roch-Marc Christian Kabore. Monsieur Diallo est mort à Paris samedi dernier. À l'Assemblée nationale du Burkina, amis et adversaires politiques de Salif Diallo se succèdent pour rendre hommage aux défunts. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
Alors que le pays s'affaire au rapatriement de la dépouille mortelle de Salifou Diallo ce mercredi à Ouagadougou, les hommages et les questionnements se poursuivent. Au siège de l'hémicycle, le cahier de condoléances continue à se noircir d'encre. Chacun des visiteurs, comme Mohamed Awargas, chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc, laisse une partie de ce sentiment sur l'illustre défunt.
La disparition subite de Salifou Diallo est une grande perte pour le Burkina Faso, aussi bien sur le plan politique que sur le plan humain. C'était un grand homme politique qui a marqué l'histoire du Burkina Faso sur le plan politique. Il a contribué fortement à l'évolution politique et démocratique de son pays.
La ténacité et le tact de Salifou Diallo dans le traitement des dossiers sont des constantes remarquables, explique Mathias Sommé, chargé de la prospective du bureau exécutif national du mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir.
Quand il est convaincu de quelque chose, il n'en démord pas. Il peut ne pas arriver à convaincre quelqu'un, mais il prendra le temps et les moyens pour le faire. C'est un fin diplomate. Tout le monde s'attendait à ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y ait toujours des étincelles, ça et là. Mais Salif, de par son approche, sa capacité à impliquer tous les acteurs, il arrive à mettre tout le monde d'accord. Tous ceux qui étaient contre lui se sont rendus compte que non, au fond, c'est un homme d'État. Il n'en veut à personne, il n'en veut au problème. Je pense que nous saurons apporter les aménagements nécessaires pour que la dynamique qu'il a contribué à créer ne connaisse pas une rupture.
Même ses plus farouches adversaires politiques lui reconnaissent le sérieux dans ses engagements, témoigne Achille Tapsoba, président par intérim du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès.
Oui, c'était quelqu'un de très ponctuel. Quand le ministre Salif Diallo tient une réunion à 7h, l'ouverture de la réunion c'est 7h. Il donne des rendez-vous à la minute près. Et 2 minutes après, votre rendez-vous est annulé. Si vous venez avec 2 minutes de retard. Il est arrivé au ministre Salif Diallo de signer des documents à la coupée de l'avion avant d'embarquer pour une mission. Voilà un peu sa méthodologie et la disponibilité qu'il fait preuve dans son travail.
Qu'il ait été apprécié ou pas, Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale récemment disparu, n'a laissé personne indifférent tout au long de sa carrière politique. Craint ou admiré par ses camarades politiques, tout comme par ses adversaires, tous reconnaissent en lui l'image d'un grand leader, d'un homme de combat et de conviction, d'un homme qui n'avançait pas masqué. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Actualité américaine, le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale, organisation dépendant du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, a émis ce mercredi un premier avertissement formel à propos de la situation aux États-Unis. Une mesure utilisée pour signaler l'émergence d'un possible conflit intercommunautaire dans un pays. Le comité a justifié le recours à ce premier avertissement en citant la prolifération des manifestations racistes aux États-Unis. Il a pointé en particulier du doigt les récents troubles à Charlottesville en Virginie, où une femme a été tuée après qu'un suprémaciste blanc a précipité son véhicule sur un groupe de manifestants antiracistes. Le comité a enjoint le gouvernement américain à condamner sans équivoque et sans condition les discours de haine raciste. L'appel de l'organisme onusien intervient au lendemain de la visite du président américain Donald Trump à Phoenix dans l'État d'Arizona, où le chef de l'exécutif a défendu hier soir sa réaction aux incidents de Charlottesville. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Monsieur Trump a commencé son intervention par une répétition de ses précédentes déclarations critiquant les néo-nazis et les racistes du Ku Klux Klan après les violences meurtrières du 12 août dernier à Charlottesville en Virginie. Mais le président a omis les mots les plus controversés qu'il avait utilisés pour envoyer dos à dos tenants de la suprématie blanche et contre-manifestants. Donald Trump a également accusé les médias de ne pas se faire l'écho de ses commentaires, ajoutant qu'il est quelqu'un qui veut dire la vérité, une personne honnête. Les deux sénateurs républicains de l'Arizona, John McCain et Jeff Flake, qui ont eu plusieurs accrochages avec le président, n'ont pas participé au rassemblement et le président les a critiqués sans mentionner leur nom. La présence de Donald Trump à Phoenix a attiré des dizaines de milliers de ses partisans et de protestataires au centre-ville et les forces de sécurité se sont évertuées à éviter tout incident entre les deux côtés. La police a cependant usé de gaz lacrymogène après le discours contre des manifestants anti-Trump.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.